PME Magazine vous propose une série de 5 podcasts qui lèvent le voile sur un métier méconnu mais stratégique dans l'entreprise, celui de la direction financière. Dans cet épisode, retrouvez Nicolas Chorneau, CFO de la multinationale humanitaire Vestergaard. Ce podcast vous est proposé par Romandy Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling. On écoute.
Nicolas Chorneau, 45 ans. Ça fait maintenant depuis 2008 que je travaille pour Vestergaard et depuis 2013 que j'occupe le poste de CFO. Vestergaard est une société suisse avec un siège social basé à Lausanne. On a des bureaux au Vietnam, au Kenya et également à Hanoï. On est actif dans l'imprégnation de polymères. C'est un terme un peu barbare, mais en fait, ce qu'on fabrique principalement, c'est des moustiquaires imprégnés. Ces moustiquaires imprégnés, elles servent à lutter contre la malaria. Donc c'est l'activité, j'ai envie de dire, principale qui génère 80% du revenu de la société.
Mais pourquoi ce désir de faire carrière dans la finance et le controlling ?
Je suis arrivé là-dedans un peu par hasard. J'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé dans le domaine de l'informatique. Ensuite, je suis parti dans le bancaire, dans l'audit, pour finalement me retrouver aujourd'hui dans un rôle de directeur financier. Ce qui m'intéresse, alors bien évidemment, il y a un intérêt pour les chiffres, mais c'est surtout l'attrait de la mission de notre société, l'attrait de l'activité de l'entreprise pour laquelle je travaille.
C'est quoi, au juste, le profil type d'un bon CFO ?
C'est quelqu'un qui a une bonne expertise technique, mais qui sait aussi s'entourer de gens extrêmement pointus et compétents dans des domaines donnés. Et c'est, j'ai envie de dire, un chef d'orchestre qui va pouvoir amener son équipe à fournir des informations précises, des informations de qualité au management team. Le CFO, on pourrait croire qu'il a tendance à être dans une tour d'ivoire. Par contre, un des éléments importants, c'est d'être entouré d'équipes extrêmement compétentes, ce qui permet finalement de se libérer du temps et de pouvoir finalement mettre l'humain au centre des préoccupations. L'élément le plus important pour le CFO, c'est de fournir une analyse précise sur les risques et les opportunités d'un modèle d'affaires. Vous pouvez travailler sur un budget pour un nouveau modèle d'affaires. Du moment que les analyses ont été faites de manière cohérente, finalement, la décision finale, elle est dans la main du CEO. Si finalement cette initiative sera couronnée de succès ou si c'est une défaite, il y a plusieurs éléments qui peuvent intervenir, des éléments de marché. Donc, je pense qu'encore une fois, l'élément principal, c'est qu'on soit convaincu qu'on ait fait le travail au plus près de notre conscience professionnelle.
Est-ce que la qualité d'un bon CFO, c'est finalement cette humilité ?
Alors, je ne sais pas si c'est sa qualité première, mais moi, j'ai toujours eu une certaine humilité, étant donné que même si on est ultimement le responsable de toute la fonction finance, il faut savoir s'entourer de gens qui sont plus pointus que nous, de gens qui peuvent nous apporter finalement les connaissances que nous n'avons pas. J'ai toujours dit qu'il vaut mieux être entouré de gens beaucoup plus intelligents, ça nous aidera à avancer. Mais il faut également pas oublier que c'est un peu comme dans un travail d'état-major. Vous avez des gens extrêmement compétents qui sont autour de vous, qui vous mettent des options sur la table. Et c'est votre responsabilité de prendre la décision finale. Et je pense que c'est là où est la grande différence. On doit vraiment être entouré d'une équipe compétente. C'est mon cas aujourd'hui. Par contre, lorsque la décision est prise, c'est à nous de l'assumer.
Vous avez commencé en 2013 dans les chiffres, mais quel est votre rôle aujourd'hui ?
Alors, je sais que mon rôle, il a passablement évolué. À l'époque, j'étais vraiment dans les chiffres, dans l'analyse des performances passées, dans l'analyse, la préparation des budgets, des forecasts. Aujourd'hui, toutes ces activités, elles ont vraiment été prises en charge par les équipes comptables et par les équipes reporting. Et moi, je suis devenu, j'ai envie de dire, plus un acteur du changement. Je me considère aussi souvent comme le sparring partner du CEO, qui est là vraiment avec pour mission principale de pouvoir lui fournir les informations stratégiques lui permettant de prendre les bonnes décisions. Je pense que le département finance tel que nous le connaissions à l'époque, donc composé de la comptabilité, planning financier, analyse, compliance, IT, aujourd'hui sont des composantes extrêmement importantes. Par contre, le CFO va passer moins de temps avec ses départements et plus se focaliser sur les axes stratégiques de la société.
Vous avez un modèle économique assez unique puisque vous travaillez dans une entreprise humanitaire. En quoi cette orientation change votre rôle d'assurer la pérennité de cette multinationale ?
On a un rôle très fort d'entrepreneuriat à but humanitaire. C'est vraiment la mission et l'élément clé qui est voulu par l'actionnaire. Et c'est également ce qui rend le métier très intéressant parce qu'on a non seulement une problématique financière comme tous les autres CFO, mais surtout on a la possibilité d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Nos clients finaux sont basés en Afrique subsaharienne et en Asie. Et c'est vrai que le rôle en tant que tel, techniquement parlant, il reste le même. Par contre, en tant que CFO, il y a toute la problématique de discussion stratégique avec le CEO, finalement, qui vont vers ces définitions de besoins et ces axes stratégiques qui permettent finalement de fournir des prestations à des populations qui sont dans le besoin.
CTO, CEO, le monde de l'entreprise est dominé par des acronymes. Est-ce que celui du CFO est plus important que les autres ?
Alors non, il n'est clairement pas plus important que les autres. Il est tout autant important. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle d'un CFO, c'est vraiment de pouvoir œuvrer finalement dans l'ombre, d'être un leader généraliste et un bon sparring partner qui permet de soutenir le CEO dans ses décisions quotidiennes.
Quel a été l'impact du numérique dans l'évolution de votre poste ?
La montée en puissance du rôle du CFO, elle est intimement corrélée avec l'évolution de la technologie, que ce soit au niveau de l'automatisation des données, de l'analyse ou encore de la visualisation de ces données. Je pense en effet que grâce à ces nouveaux outils, les directeurs financiers ont acquis une visibilité interfonctionnelle accrue de l'ensemble de l'entreprise et par conséquent, ça nous permet également de devenir des agents de la transformation numérique. Cette révolution technologique, elle a passablement libéré temps pour l'organisation financière. Et ça a été une grande plus-value, j'ai envie de dire, pour le directeur financier, car ça m'a permis de reprendre du recul et également, par conséquent, de réfléchir aux processus et aux outils implémentés afin d'améliorer les prises de décision stratégiques.
Au fil de votre carrière dans ce poste, est-ce que vous avez un jour douté ou vous ne vous êtes pas senti armé face à l'évolution de la fonction ?
Le métier de CFO a passablement évolué, mais c'est également ce qui fait son attrait. Si on pense aux actifs financiers de base, comptable, reporting, budget, audit interne, compliance, finalement, c'est des activités qui sont clés pour l'entreprise. Mais le fait que le métier de CFO évolue, et on a vu récemment que la problématique du numérique est également quelque chose qui est très important et que je gère. Ça permet finalement de diversifier les activités et amener plus d'intérêt.
RH, management, IT, vous supervisez énormément de départements. Est-ce que finalement vous pouvez être bon partout ?
Alors c'est vrai que le fait d'avoir de multiples casquettes, ça veut dire qu'on doit très bien s'entourer. Ça veut dire qu'on doit quelque part trouver les talents qui sont capables d'assumer les responsabilités ressources humaines, les responsabilités HR, les responsabilités comptabilité ou même les responsabilités du département reporting controlling. Donc il faut savoir très bien s'entourer. Et puis il faut aussi, j'ai envie de dire, laisser les gens grandir, être capable de recruter les talents et les pousser à prendre de plus en plus de responsabilités. Encore une fois, je pense qu'un bon chef, c'est un chef qui, s'il venait à partir, la société pourrait continuer à tourner. Donc moi, je pense que je ne suis pas obligatoire à la survie de la société. Bien au contraire, je pense que j'ai des équipes sous moi. Si ces derniers venaient à partir, ça pourrait poser bien plus de problèmes.
Dans l'organigramme, le vrai chef, c'est vous ?
Je crois plutôt à un organigramme relativement plat, une structure hiérarchique plate. J'ai par principe d'avoir un management participatif. Quand on dit que le chef, c'est moi, je pense que quand le bateau va pas dans la bonne direction, oui, il faut un capitaine à bord du navire pour donner la bonne direction. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est archaïque de penser que finalement, c'est un chef qui dicte tout ce que ses managers doivent effectuer.
Comment s'organise ce couple avec le CEO ?
Vous avez le CEO qui est sous les feux des projecteurs. Le CFO est là en tant que sparring partner est là en tant que généraliste et sa mission principale, c'est de pouvoir fournir en temps voulu les informations stratégiques dont le CEO a besoin afin de prendre les bonnes décisions au bon moment.
En quoi la fonction de CFO dans une multinationale est différente de celle dans une PME classique ?
Je pense qu'on sait bien que dans une PME, que dans une multinationale, le rôle du CFO est un rôle extrêmement important. Encore une fois, il s'agit de pouvoir s'assurer que toutes les activités back-office de la société fonctionnent et permettent finalement aux fonctions du front desk, c'est-à-dire des ventes, du marketing, de pouvoir finalement pérenniser l'activité de l'entreprise. Au niveau d'une multinationale, on a peut-être la chance d'avoir des équipes un peu plus grandes, ce qui permet finalement au CFO d'avoir plus de temps pour vaquer à des occupations stratégiques et encore une fois d'être un allié ou un sparring partner du CEO lorsque le besoin se fait ressentir.
Toutes les entreprises doivent davantage rendre compte. Comment est-ce que vous gérez le risque réputationnel ?
Parfois, je n'arrive pas à dormir le soir. C'est vraiment le risque réputationnel. C'est si, en tant que membre du management, on venait à prendre une mauvaise décision suite à une recommandation du CFO et que vous deviez mettre la clé sous la porte. C'est vrai qu'au niveau réputationnel, ce serait extrêmement dommageable, d'une part pour les collaborateurs, mais également pour moi. Et c'est vrai que le CFO ne doit plus uniquement réfléchir en termes de retour sur investissement, mais également en termes d'impact. Je pense qu'il n'y a pas uniquement l'impact de la société ou l'impact des collaborateurs, mais également l'impact que l'entreprise a sur ses activités, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau social ou que ce soit au niveau gouvernance. On l'a vu récemment avec l'initiative sur les multinationales responsables. C'est un thème qui, même s'il a été rejeté à une vaste majorité des cantons, prendre de plus en plus d'importance et sur lesquelles les entreprises sont jugées.
Vous arrivez à dormir dans le contexte actuel de la pandémie ?
Le rôle du CFO en période de crise, il est extrêmement important parce qu'il s'agit de pouvoir aider l'entreprise à naviguer à travers les différents chocs qui sont liés au Covid. Il s'agit de pouvoir prendre une multitude d'initiatives et surtout d'être proactif avec tous nos différents partenaires, que ce soit avec les banques, que ce soit avec nos fournisseurs, nos clients. Bien évidemment, maintenir un flux d'informations suffisant avec le conseil d'administration et nos actionnaires. Je pense qu'il s'agit également de préparer l'entreprise à l'après-crise et surtout à l'aider à se remettre sur pied en limitant d'une part les dommages collatéraux, mais également en restant le plus compétitif possible. Je pense qu'il y a certaines initiatives qui sont impératives. Je pense que c'est important de ne pas manquer le virage technologique. Sinon, on risque d'avoir clairement, au niveau compétitif, un manque par rapport à la concurrence. Je pense qu'il s'agit également de pouvoir soutenir l'entreprise en trouvant des talents capable de relever ces défis, mais également en tant que leader, il s'agit finalement de se montrer bienveillant et avoir de l'empathie et faire preuve de motivation envers tous les collaborateurs durant une période telle que nous vivons aujourd'hui.
Comment voyez-vous votre poste dans 5 ans ?
Je pense que le poste de CFO, dans les 5 prochaines années, il va continuer à se dématérialiser grâce aux avancées technologiques. Il est important pour le CFO qu'il puisse continuer à finalement avoir cette vision stratégique, amener de la valeur ajoutée et pas uniquement être là pour sortir des analyses du passé, sortir des analyses chiffrées sur les performances des mois précédents.
C'est le temps qui vous manque actuellement ?
Le temps qui manque, oui, c'est clairement. Alors c'est le temps qui manque aujourd'hui, c'est de pouvoir se focaliser sur l'humain, mais c'est aussi le temps que je passe aujourd'hui sur une journée de 10 heures. Je passe entre 6 et 8 heures en meeting. Que ce soit sur Zoom ou sur Skype, on est de manière quotidienne connecté avec les collaborateurs pour pouvoir comprendre finalement dans quelle situation ils se trouvent.
Qu'est-ce qui vous ferait quitter la fonction un jour ?
L'élément principal qui me ferait quitter la fonction, c'est de pouvoir devenir CEO et être finalement le capitaine du bateau.
Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling.